Chapitre 12. If music be the food of love, play on. Nietzsche, dans un très sombre jour, écrivait à une amie. N'est-ce pas une œuvre d'art? Espérez. En débarquant à Marseille dans cet avant-printemps de 1839, Chopin et George Sand font œuvre d'artiste parce qu'ils espèrent, parce qu'ils sont remplis de cet enthousiasme inexplicable que donnent les choses les plus banales en certaines heures prédestinées. Il leur suffit de rien, une lettre attendue, un beau visage, l'ombre d'une église sur la rue, les paroles rassurantes d'un docteur, pour savoir que voici l'aube d'une convalescence qui va sécher leur amour presque pourri et le mûrir, le transmuer en une paisible et durable amitié. Il ne faut parfois qu'un paysage de hasard pour changer tout le rythme des âmes. À Majorque, on pouvait se demander si la chartreuse abandonnée n'était pas une sorte de purgatoire, d'où Sand explorait les enfers tandis que le malade se sentait déjà monté vers le ciel.
« Ce Chopin est un ange », avait écrit Georges. « Il a fait à Majorque, étant malade à mourir, de la musique qui sentait le paradis à plein nez. Mais je suis tellement habitué à le voir dans le ciel qu'il ne me semble pas que sa vie ou sa mort prouve quelque chose pour lui. Il ne sait pas lui-même dans quelle planète il existe. »
À Marseille, bonne ville d'épiciers, de parfumeurs, de marchands de savon, on reprend pied sur terre. Il s'installe à l'hôtel de Beauvau, voit un médecin et décide d'attendre l'été dans le Midi. Ce n'est pas sans un peu d'ennui qu'il s'y résolve, mais l'ennui lui-même contribue au repos, si nécessaire après les fatigues de leur voyage d'amour raté. De plus, il faut se barricader contre le mistral et les fâcheux qui s'introduisent par toutes les portes. Mais ils se font passer pour morts. Le docteur Cauvière ausculte Chopin régulièrement, lui fait porter des vésicatoires, le met au régime, et le déclare en bonne voie de cicatrisation. Il peut recommencer à jouer, à marcher, à parler comme tout le monde, lui dont la voix, depuis des semaines, n'était déjà plus qu'un souffle. Il dort beaucoup. Il s'occupe de l'édition de ses œuvres, écrit à Fontana au sujet de leurs dédicaces, et discute avec lui le prix de ses compositions nouvelles. Car il faut penser à l'avenir, à l'appartement parisien qu'il est décidé à reprendre. Il se fâche, il tient tête aux éditeurs et ne veut rien céder.
Pour l'argent, tu dois faire un contrat clair et ne remettre les manuscrits que contre argent comptant. Je préférerais donner mes manuscrits comme autrefois, à bas prix, plutôt que me courber devant ces...
Au mois de mai, Chopin est assez valide pour entreprendre avec sa maîtresse un court voyage à Gênes. C'est une belle éclaircie. Il visite les palais, les jardins en terrasse, les tableaux. Pense-t-elle au voyage d'il y a bientôt 4 ans, lorsqu'avec Musset, ils abordèrent pour la première fois cette terre italienne? Gênes est peut-être la seule ville où leur amour n'ait pas été troublé. Elle a écrit que ce revoir fut un plaisir. Le 22 mai, il quitte Marseille et se met en route pour Nohant, où il compte passer tout l'été. Après une semaine de chaos, ils arrivent enfin dans ce Berry large et bien cultivé,
semé de gros noyerons
et coupé de chemins ombragés que Georges affectionne. Subitement, c'est le village modeste, l'église au toit de tuiles, et tout en bordure de la place, le château. Un château paysan qui symbolise la double origine royale et plébéienne de cette femme de 35 ans que l'Europe admire et qui ramène au nid son petit, son nouveau petit. Un jeune homme noble et diaphane qui semble tomber dans ces vieilles campagnes françaises comme un oiseau des mers. Chopin n'a jamais aimé la campagne. Il se plaît pourtant à Nohant. La maison est confortable. Après Majorque et Marseille, c'est un plaisir d'avoir une grande chambre, des draps fins, une table soignée, quelques meubles élégants. Bien que sans luxe, cette grosse maison a bon air. On s'y trouve à l'aise. On y est choyé, entouré. Un vieil ami de Georges, le docteur Papet, accourt tout de suite pour examiner le malade à fond. Il diagnostique une affection chronique du larynx, ordonne beaucoup de repos, un séjour prolongé à la campagne. Chopin se soumet à ce programme sans aucune difficulté et adopte une vie sage, parfaitement réglée. Tandis que Georges se remet à l'éducation de ses enfants et à sa tâche de romancier, il corrige une édition nouvelle des œuvres de Bach, termine sa sonate en mi bémol mineur, le second nocturne de l'opus 37, et 3 mazurkas, opus 41. On dîne en plein air entre 5 et 6 heures. Puis viennent quelques amis voisins, les Fleury, les Dutheil, Duvernet, Rollina, avec qui l'on cause et l'on fume. Ils témoignent tous à Chopin, de prime abord, une sympathie respectueuse. Hippolyte Chatiron, le demi-frère de Georges, qui habite avec sa femme les environs tout proches, sorte de gentillâtre bonhomme et quelque peu ivrogne, se prend pour lui d'une amitié passionnée. Lorsqu'ils sont tous partis, Chopin joue du piano entre chien et loup, après quoi il se met au lit et s'endort comme un enfant, en même temps que Maurice et Solange. Quant à Georges, elle ouvre l'encyclopédie et prépare sa leçon du lendemain. C'est une vraie vie de famille, telle justement que Chopin la comprend le mieux, telle aussi qu'il la lui faut en période de travail.
« Je compose ici une sonate en si bémol mineur, écrit-il à Fontana, dans laquelle sera la marche funèbre que tu as déjà. Il y a un allegro, et puis un scherzo, en mi bémol mineur, la marche, et un cours final de 3 pages environ. Après la marche, la main gauche babille unisono avec la main droite. J'ai un nouveau nocturne en sol majeur qui accompagnera le nocturne en sol mineur, si tu t'en souviens. Tu sais que j'ai 4 nouvelles mazurkas. Une de Palma, en mi mineur, 3 d'ici en si majeur, la bémol majeur et ut dièse mineur. Elles me paraissent jolies comme les plus jeunes enfants le semblent aux parents qui vieillissent. Autrement, je ne fais rien. Je corrige moi-même une édition parisienne des œuvres de Bach. Il y a non seulement des erreurs de gravure, mais je crois des erreurs harmoniques commises par ceux qui prétendent comprendre Bach. Je ne le fais pas avec la prétention de le comprendre mieux qu'eux, mais avec la conviction que je devine quelquefois comment cela doit être.
Chaque soir, pendant l'heure de musique que Chopin dédie à Georges toute seule, elle écoute et se recueille. Car c'est une écouteuse de choix. Sans doute est-ce dans ces moments-là que ces deux âmes, si peu pénétrables l'une pour l'autre, se sont le mieux comprises. Elle sent bien qu'il est le type extrême de l'artiste, qu'il n'y aura jamais moyen de lui faire rien accepter de la réalité, que son rêve continuel est trop loin du monde, trop peu philosophique, pour qu'elle puisse le suivre dans ces régions absentes d'humanité. Mais il est doux cependant d'être l'objet de la préférence d'un tel homme. Cruel aussi, car si Chopin tient compte avec usure de la moindre clarté qu'on lui apporte,
il ne prend pas la peine de cacher ses déceptions à la première obscurité.
Son humeur fantasque, ses abattements profonds, intéressent à la fois et inquiètent l'amateur d'émotions qu'est Georges. Mais une sorte d'effroi s'empare de son cœur à la pensée d'un devoir nouveau à contracter si Frédéric s'installe définitivement auprès d'elle. Elle n'est plus illusionnée par la passion. Une peur la prend d'avoir à lutter un jour contre quelque autre amour qui pourrait survenir et serait meurtrier à cet être frêle qu'elle a enlevé à lui-même. Puis elle sera fermée, un devoir de plus dans sa vie déjà si accablée, ne serait-ce point précisément une défense contre les tentations, une chance plus grande pour atteindre cette austérité vers laquelle elle se sent attirée par le vieux fond d'enthousiasme religieux dont elle ne s'est jamais défaite. Que décider ? Elle prend le parti provisoire de s'en remettre aux événements. Quant à Chopin, ce bonheur paisible est trop bien à la mesure de ses forces pour qu'il songe à autre chose. Il donne toute sa tendresse, il crée, c'est là le beau présent et le seul avenir. Pendant qu'il improvise, Georges ouvre un cahier et prend des notes.
Le génie de Chopin est le plus profond et le plus plein de sentiments et d'émotions qui ait existé. Il fait parler à un seul instrument la langue de l'infini. Il sait résumer en 10 lignes qu'un enfant pourrait jouer des poèmes d'une élévation immense, des drames d'une énergie sans égale. Il n'a jamais besoin de grands moyens matériels. Il ne lui faut ni saxophone, ni ophicléide pour remplir l'âme de terreur, ni orgue d'église, ni voix humaine pour la remplir de foi et d'enthousiasme. Il faut de grands progrès dans le goût et l'intelligence de l'art pour que ses œuvres deviennent populaires. Chopin sent sa puissance et sa faiblesse. Sa faiblesse est dans l'excès même de cette puissance qu'il ne peut régler. Sa musique est pleine de nuances et d'imprévus. Quelquefois, rarement, elle est bizarre, mystérieuse et tourmentée. Quoiqu'il ait horreur de ce que l'on ne comprend pas, des émotions excessives l'emportent à son insu dans des régions connues de lui seul.
Vers la fin de l'été, ils décident de rentrer tous à Paris. Sand s'est convaincue qu'elle ne viendra pas toute seule à bout de l'éducation de ses enfants. Maurice a envie d'apprendre le dessin. Solange est difficile, un peu sournoise, entêtée. Georges a besoin aussi de revoir son éditeur Bulose, le directeur de la revue des Deux Mondes. Chopin voudrait retrouver ses élèves et reprendre ses leçons, source majeure de ses revenus. On bombarde donc les amis de lettres pour qu'ils cherchent deux appartements pas trop éloignés l'un de l'autre. Crissimala, Arago et Fontana se mettent en chasse. De Nohant, les instructions pleuvent sur la tête des trois amis. Bientôt, de bonnes nouvelles arrivent. Chopin sera logé au numéro 5 de la rue Tronchet, et quant à Georges, elle aura deux petits pavillons dans un jardin, au numéro 16 de la rue Pigalle. Nohant est dans la joie, et Frédéric, toujours si difficile en matière d'élégance, pense maintenant à son habillement. En récompense de tous ses soins.
Je changerai pour toi la seconde partie de la polonaise jusqu'à la fin de ma vie. La version d'hier peut aussi ne pas te plaire, bien qu'elle m'émise le cerveau à la torture pendant 80 secondes. J'ai copié mes manuscrits en bon ordre. Il y en a 6 avec tes polonaises, en ne comptant pas la 7e, un impromptu qui est peut-être sans valeur. Je n'en sais rien moi-même, parce qu'il est trop récent. Titus me conseille de composer un oratorio. Je lui ai répondu en lui demandant pourquoi il construit une sucrerie et non un couvent de dominicains. Comme tu es un homme habile, tu peux faire en sorte que ni pensée noire, ni toux suffocante ne me gênent dans mes nouvelles chambres. Fais que je devienne sage. Efface, si tu le peux, beaucoup d'épisodes de mon passé. Il ne serait pas mauvais non plus que je m'assigne un travail de plusieurs années. Enfin, tu m'obligerais, en te rajeunissant beaucoup, ou en trouvant le moyen de faire que nous ne soyons pas encore nés. Ton vieux Frédéric.
Frédéric et Georges s'installèrent tous deux à Paris en octobre de cette année 39. Mais ils se convainquirent bientôt qu'il leur était difficile de vivre séparés après une année entière d'existence commune. Chopin avait encore besoin de sollicitude, de précaution. Il céda son logement au docteur Matusinski et se transporta avec son mobilier à l'étage inférieur d'un des deux pavillons de la rue Pigalle. Ses années souhaitées de grand et parfait labeur se déroulèrent donc à peu près sur le rythme désiré. Pendant la matinée, les professeurs se succédaient auprès de Maurice et de Solange. Chez Chopin, c'était le défilé des élèves. Ses leçons duraient une heure au moins, parfois bien davantage. Il arrivait souvent au maître d'exécuter les morceaux lui-même. À l'une de ses élèves, il joua une fois par cœur 14 préludes et fugues de Bach. Et comme la jeune fille exprimait son admiration pour ce tour de force,
« Cela ne s'oublie jamais, » dit-il en souriant. « Depuis un an, je n'ai pas étudié un quart d'heure de suite. Je n'ai pas de force, pas d'énergie. J'attends toujours un peu de santé pour reprendre tout cela, mais j'attends encore. »
De tels efforts l'épuisaient. Il absorbait quelques gouttes d'opium dans un verre d'eau et il frictionnait ses tempes avec de l'eau de Cologne.
« La dernière chose, » reprenait-il, « c'est la simplicité. Après avoir épuisé toutes les difficultés, après avoir joué une immense quantité de notes et de notes, c'est la simplicité qui sort avec tout son charme, comme le dernier sceau de l'art. Quiconque veut arriver d'emblée à cela n'y parviendra jamais. On ne peut commencer par la fin. »
L'après-midi était en général consacré au travail personnel des deux artistes. Le soir, on se réunissait chez Georges, on dînait ensemble, puis venait l'un ou l'autre des familiers de la maison. Le salon était de couleur café au lait, rempli de très beaux vases chinois, toujours garnis de fleurs à la mode chopinesque. Le mobilier était vert. On voyait un grand dressoir en chêne, chargé de curiosités, et au mur le portrait de l'hôtesse par Kalamata et plusieurs toiles de Delacroix. Le piano était nu, carré, en palissandre. Chopin s'y tenait presque toujours. À côté s'ouvrait la chambre à coucher de Georges, où deux matelas posés par terre et recouverts d'un tapis de Perse formaient le lit. Sand se levait tard, parce qu'elle veillait une grande partie de la nuit. Chopin polissait, remettait au net ses œuvres, dont les premières esquisses lui venaient en général pendant l'été. Sa création était toute spontanée. Elle jaillissait au hasard d'une promenade, d'une heure de méditation, ou bien se déroulait, subite et complète, tandis qu'il était assis devant son piano. Il se la jouait à lui-même, la chantait, la reprenait, en modulait les accents. Alors commençait cet immense labeur des recherches de la perfection, qui seront toujours, quoi qu'on dise, l'ordre essentiel de l'artiste.
Il s'enfermait dans sa chambre des journées entières, pleurant, marchant, brisant ses plumes, répétant ou changeant 100 fois une mesure, l'écrivant et l'effaçant autant de fois, et recommençant le lendemain avec une persévérance minutieuse et désespérée. Il passait 6 semaines sur une page pour en revenir à l'écrire telle qu'il l'avait tracée du premier jet.
En notant ces choses, Georges s'en agaçait avec la surprise candide des créateurs féconds que ne tourmentent point les nostalgies du fini. Mais tel Giotto, à qui l'on demandait pour le pape un exemple parfait de son savoir, ne voulut envoyer qu'un cercle sans défaut. Tout de même, Chopin, ayant chargé une ligne de tous les ornements de sa pensée, en revenait à l'exquise nudité, signe dernier et suffisant de l'idée. Ainsi travaille le poète. Ainsi resserre-t-il dans le plus petit espace possible son univers, le rend-il lourd comme un cristal, mais irisé de 1000 feux. C'est ce qui faisait dire à cette grande noircisseuse de pages qu'était Sand que Chopin pouvait résumer en quelques mesures
« Des poèmes d'une élévation immense, des drames d'une énergie sans égale. »
Mozart seul, pensait-elle, lui était supérieur, parce qu'il a eu le calme de la santé, donc la plénitude de la vie. Mais c'est une question de savoir quels troubles heureux pour l'art apportent les maladies. Il est bien sûr que l'essoufflement, les nervosités de Chopin ont donné à son inspiration virile ses ajoutures languissantes, ses sonorités fatiguées, par où il nous atteint le mieux.